Est-ce que,
oui, vas-y.
Est-ce que l'éducation de la jeunesse ne peut pas commencer plutôt par l'éducation au droit? Est-ce que bon, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça quand les enfants sont très jeunes? Par exemple, et puis un peu plus.
C'est une question qui m'est difficile parce que.
Les droits ou les devoirs?
Si on enseigne aux enfants ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce que souvent ils disent j'ai le droit d'eux, est-ce que c'est. Est-ce que votre travail, s'il avait été commencé à ce stade-là, est-ce que vous n'en auriez pas moins de travail?
Non, mais enfin, je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut que la loi SIC soit claire pour tout le monde. Et qu'effectivement, il y a le problème, semble-t-il, des positions de parents qui ont à donner un cadre. Et la loi, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, fait partie de ce cadre-là. Mais c'est vrai que je suis toujours réticent quand je sens des cadres qui sont trop fermés, parce que je trouve qu'ils bloquent. Voilà, c'est-à-dire, comment poser un cadre tout en permettant l'expression et tout voilà, mais j'ai pas de réponse.
Et puis ça
c'est
serait...
de tout au long... Pardon.
Excuse-moi.
Non. Tout au long de ma carrière, je crois que j'ai fait à peu près ce que j'ai voulu. Voilà. Et que l'administration ne m'a jamais embêté. J'arrive à Rodez, je ferme une institution, l'administration ne m'a absolument rien dit. Voilà, alors que peut-être je ne devais pas, j'aurais dû demander, j'aurais dû faire, si tu veux. C'est pour ça que cette question du rapport à la loi me paraît complexe. Ceci dit, je suis d'accord avec toi pour que, pour un gamin, on lui dise, mais non, ça ne se fait pas. Mais ça se fait, bien sûr, mais bon, ça commence au biberon. Hein. Voilà.
Mais c'est pas parce que ça n'est pas fait, il ne faut pas mettre l'importance première sur ce défaut-là, parce que c'est pas parce que c'est pas fait que par la suite, ou parce que c'est fait que par la suite, l'enfant deviendra délinquant et ne connaîtra pas les limites de ses droits et de ses devoirs. Il n'y a pas que ça, je veux dire par là. Il n'y a pas que ça. C'est important, mais il y a tellement d'autres paramètres qui entrent dans la construction des passages à l'acte des délinquants à un âge plus avancé, au moment de l'adolescence notamment, que ça ne relève pas que d'une responsabilité éducative de base que les parents auraient mal assumé. Voilà.
Là, je crois que la question, c'était au milieu scolaire, non ? Vous parlez de la...
Je parlais du milieu scolaire, parce voilà. Que, comme j'étais enseignant, il m'est arrivé souvent de dire à des enfants, tu n'as pas le droit. Ça ne veut pas dire que les parents ne l'avaient pas fait auparavant. Ça veut dire que peut-être, tout au long d'une certaine période, les adultes qui côtoient les enfants doivent le faire. C'est dans le droit, ce n'est pas un droit théorique, c'est, je ne sais pas, pour un objet trouvé dans la cour qu'on s'approprie, mais il est là, donc il est à personne, donc il est à moi, de redire non, c'est, il n'est pas à toi, tu n'as pas le droit de le prendre, il est à quelqu'un qui l'a oublié ou qui l'a laissé. Mais, voilà.
Oui, mais c'est quelque chose qui incombe aussi à moi quand j'ai un gamin qui fait une connerie, oui. À lui dire arrête de faire des conneries. Oui. Enfin, c'est bien clair, oui. Bien sûr. Oui.
Mais la question posée, c'est quelle est la place de l'enseignant dans l'éducation civique?
Excuse-moi, je parle.
C'est la place de l'enseignant dans l'éducation civique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cours encore d'éducation civique?
Oui, il y en a. Il y en a, mais c'est pas concret.
Ouais.
Il y en a, mais ils sont pas forcément très... Enfin, ils n'atteignent pas forcément leur but. Enfin, tel que moi, je les ai vécus à travers ce que mes enfants m'en ont dit. Hein. Voilà, c'est parce que, comme disait monsieur tout à l'heure... Si on parle de dispenser certaines consignes concrètement, parce que moi, dès que l'enfant fait quelque chose de mal, regardez, ça c'est pas bien parce que telle et telle chose, ça peut marcher éventuellement. Mais de discourir dans l'abstrait devant des enfants quel que soit leur âge, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. C'est, bon, ils décrochent très vite, hein. Ils décrochent surtout les petits, hein. Donc tout le monde sait que tout le monde peut intervenir pour dire à un enfant qui a fait quelque chose de mal. Puis c'est qu'est-ce que c'est quelque chose de mal en plus, hein, déjà il faudrait le définir, hein. Que c'est pas bien parce que ben l'autre va souffrir parce qu'il va plus retrouver son doudou. Enfin, voilà. Après l'éducation civique à un âge plus avancé, adolescent, tout ça, mais ça les barbe. Mais ça les barbe. C'est... Ou alors il faudrait trouver une autre façon de le présenter. Hein? Peut-être en les amenant au tribunal. D'ailleurs, c'est ce qui se fait souvent. On amène les enfants au tribunal pour leur faire toucher du doigt, en fait, toucher des yeux, toucher des oreilles, ce qui peut se passer quand justement la règle est enfreinte. Mais il faut que ce soit concret.
Et il faut que ça s'inscrive dans une relation. Il faut que ce soit dans une crédibilité.
Ouais.
Si on n'est pas crédible en tant qu'adulte, comme tu disais tout à l'heure, la solidité, la stabilité, la sécurité de sa position par rapport à un enfant est importante. Ouais. Sinon, le gamin, on n'est pas crédible pour lui et on lui prend la tête. On nous envoie balader.
Tu disais tout à l'heure qu'il faut que l'éducateur soit bien dans ses baskets. Les premiers éducateurs, de façon naturelle, je pense, ce sont les parents. Il faut qu'ils soient bien dans leurs baskets aussi. Or, aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'être bien dans ses baskets. Ça élargit considérablement le problème. Et tu disais aussi que quand tu recevais des jeunes, je ne sais plus dans quel cadre, je ne me souviens plus, le lendemain, il y a quelques années, tu leur trouvais du boulot le lendemain. Et ça rentrait dans l'ordre. Mais bon, il n'y a pas que le travail qui devrait permettre aux gens de rentrer dans l'ordre, entre guillemets. Hein. Et ça ne devrait pas être forcément le travail qu'on met en avant. Hein. Il y a d'autres choses, hein, je pense.
La place sociale,
oui,
l'appartenance à un groupe.
Parce que demain, le travail, tout est à revoir encore. Hein. Donc ça va poser de nouveaux problèmes. Hein.
Non, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas que le travail. Quand j'ai dit le travail, parce que c'était important pour le gamin, qui permettait après de travailler. Mais le travail aussi, c'est l'autonomie. Et l'adolescence, c'est une aspiration à l'autonomie. Et donc l'aspiration à l'argent, donc à être autonome. C'est dans ce sens-là que ça a aussi une importance. Mais c'est vrai que la notion de travail, eh bien, il va falloir la revoir, c'est clair. Oui, bien d'accord.
Moi, je trouve que c'est trop simple de dire c'est la seule faute des parents qui n'ont pas enseigné suffisamment aux gamins ce qui est bon, qui n'est pas bon. Je peux vous assurer que mon père, il a fait ce qu'il fallait. Ça ne m'a pas empêché de voler. Ça ne m'a pas empêché de squatter et de faire des conneries comme ça.
Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire.
J'ai conduit sans permis de conduire. Tout ce que tu veux. Quoi. Hein. Je savais pertinemment. Que je suis hors de la loi.
C'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire.
Je le fais quand même.
Et pourquoi vous allez être agressé alors?
Hein?
Pourquoi vous allez être agressé?
Transgressé,
quoi, c'est-à-dire. Quand tu l'as fait, tu savais que c'était. Ça allait
pas. Oui. Pourquoi?
Déjà, c'est vachement. Excitant. C'est ça. Ah. Je suis arrivé d'avoir cette robe que je. Je ne peux pas me payer de toute façon. Mais j'ai regardé à tel moment la surveillante de ce magasin se déplacer du premier étage en bas pour faire, je ne sais pas trop quoi, la caisse. Et hop, j'avais la robe dans mon sac et je suis sortie du magasin.
Qu'est-ce que ça vous a apporté?
La robe.
Dire,
voilà, ça c'est
pourquoi on va dire entre le fait de se faire reprendre et pourquoi vous n'êtes pas dépassé. Quelle était la limite?
La limite, c'était quand je me suis fait arrêter avec un bouquin dans une poche parce qu'il y avait ces barrières qui se ferment.
Alors, vous avez arrêté votre délinquance, apparemment, vous avez été arrêté.
Ah oui, de suite. Aujourd'hui, je pourrais même pas mettre un chewing gum dans la poche. Je l'aurais écrit ici sur le front. Hein. Je ne peux plus. Mais allez, c'est juste. Après, j'ai fait partie du mouvement des squatteurs. Je savais bien sûr que c'était hors de la loi. Alors pourquoi on le fait? Pourquoi c'est pas que la responsabilité des parents. Mes parents m'ont fait comprendre ce qui est bon, ce qui est mal, sans problème. Hein.
Je crois que dans l'adolescence, il y a la question du défi. C'est-à-dire que c'est important à un gamin de porter un défi. Alors, il va être sur la marge à un moment donné. Mais ce n'est pas ça qui va mettre tout son avenir en l'air, c'est sûr. Mais il va y être là-dessus. Il va piquer un truc. Il faut bien essayer quand même. Là, voilà. Les copains le font, pourquoi moi je ne le ferai pas? Mais...
Et puis c'est une mise à l'épreuve aussi de la cohérence du système, de la solidité du système. Est-ce que le système qu'on veut me faire intégrer tient bon? Je vais le mettre à l'épreuve, je vais dépasser les limites, on va voir jusqu'où ça peut aller. À la fois se mettre soi-même au défi et à la fois mettre le monde extérieur au défi de sa cohérence et de sa bienfaisance.
Je me dis que quand on a inculqué les bases à un enfant, on garde espoir que ça revienne.
Que ça puisse revenir.
Voilà, revenir.
Sauf que c'est vrai qu'on ne peut pas responsabiliser complètement. Il y a certainement à repérer des failles éducatives dans le parcours de délinquants, mais on ne peut pas responsabiliser les parents de façon pleine et entière de ce parcours. Parce qu'il y a tellement... De plus en plus, même dans le monde actuel dans lequel nous vivons, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte dans les parcours des enfants. Il n'y avait pas que... Je ne sais pas, dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés archaïques, du moins traditionnelles, de l'ancien temps, l'âge adolescent, il était très réduit. Et il y avait des repères très précis. On passait directement du monde de l'enfance à de l'adulte. On allait au boulot, on était mis au boulot, on était enfant, on allait au boulot, il fallait y aller. Il fallait bouffer, il fallait faire bouffer ses frères et sœurs, il fallait y aller. Donc là, l'adolescence, elle était réduite à sa plus stricte, à son minima le plus strict. Donc la valeur travail était vraiment inscrite au plus profond dans l'appartenance au groupe social. Ça fonctionnait comme ça. Plus tardivement... maintenant, dans nos sociétés, comme on peut dire, néo-libérales, avancées, individualistes, enfin je ne sais pas comment les qualifier, on se rend compte que d'une part, la puberté est de plus en plus précoce. On ne sait pas pourquoi, hein, c'est perturbateur endocrinien, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que les pubertés sont de plus en plus précoces et les adolescences de plus en plus tardives. Et on sait que l'origine de l'adolescence, c'est quand même bien la puberté, le bouleversement hormonal qui se passe à ce moment-là, qui fait que tous les repères de l'enfance, toutes les mesures que pouvait prendre l'enfant de son monde sont bousculées, il ne se reconnaît plus, il entre dans une espèce de crise identitaire qui fait qu'il n'arrive plus à se reconnaître, qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir. À la fois, il se sent comme tout puissant pour se prouver qu'il est encore quelqu'un, mais il est dans un monde de tous les possibles. Tout le monde lui est ouvert, il est capable de tout. Mais en même temps, c'est la source de toutes les incertitudes. Il ne sait pas ce qu'il va devenir, il ne sait pas ce qu'il est. C'est ça la crise adolescente, c'est ça la crise qu'on vit dans nos sociétés, c'est ça. Le fait qu'elle dure, et l'individu, le sujet, ne trouve pas sa place véritable, sa place sociale véritable. Alors si on le confronte en plus à toutes les informations qui lui tombent dessus, le tout et son contraire, les valeurs qui se mélangent, qui se délitent, les repères de vie qui ne sont plus les mêmes, dans les fonctionnements du Sud, les fonctionnements traditionnels de tribaux en général, le passage de l'âge adulte, de l'âge enfant à l'âge adulte, il se fait bien le plus souvent dans des rituels de passage, c'est-à-dire des situations d'épreuve dans laquelle l'enfant est placé, qui correspondent à plusieurs phases, hein, que les ethnologues ont très bien qualifiées. Il y a l'éloignement du groupe social, de la famille, du groupe d'appartenance. Il y a la mort symbolique et la renaissance. La mort symbolique dans la confrontation à des épreuves terribles. Ils peuvent, dans certaines tribus, les épreuves auxquelles sont soumis les jeunes sont terribles. Il faut qu'ils sautent de tours de 50 mètres de haut, attachés par une liane. Il faut qu'ils courent dans la forêt avec les animaux sauvages. Il faut qu'ils se débrouillent pour survivre pendant un certain temps. Mais après, donc, il y a une espèce de renaissance où ils sont réincorporés dans le groupe et ils sont considérés comme des adultes. Ils deviennent adultes. Dans nos pays avancés, ben, on a de moins en moins de rites de passage comme ça. On n'a plus tellement d'événements qui viennent marquer l'accession à un âge adulte.
Et de moins en moins de responsabilités.
Et les responsabilités interviennent de plus en plus tard. Parce que c'est bien souvent le rôle social qui donne des responsabilités et qui nous fait être considérés comme un adulte par les autres adultes. Et ce qui fait qu'on a une certaine frange d'adolescents, ils ne sont pas tous... Il y a ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. Bon, d'accord, la crise, ça vient du grec « crisis », ça veut dire... ça veut dire quoi ? Ça veut dire... C'est le moment paroxystique d'une maladie juste avant la guérison ou la mort. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. La crise, c'est ce moment-là. Et c'est ce qui se passe à l'adolescence, en fait. Il va s'en sortir ou alors il ne s'en sort pas. Il y en a une majorité qui s'en sortent. Heureusement. Quoique, le taux de suicide est tout à fait inquiétant. Il est derrière là encore les accidents de route, mais il y a 10 000 décès par suicide de jeunes. On les mène jusqu'à 25 ans, les statistiques. 10 000 décès de jeunes de moins de 25 ans par an, 80 000 tentatives de suicide par an chez les jeunes de moins de 25 ans. Là, on rejoint encore, parce que dans ces suicides-là, il y a des tentatives ratées, c'est-à-dire qui réussissent malheureusement. C'est tout ce qui est les conduites à risque, c'est tout ce qui vient bricoler. Les jeunes, en fait, ont besoin de cette confrontation aux autres et aux défis et aux limites. Donc, ils vont être amenés à défier le social, à faire ce qu'il ne faut pas faire, et à aller encore plus loin dans les comportements à risque en tout genre. Rouler sans casque de plus en plus vite, prendre des drogues, faire... plein de choses comme ça qui sont des conduites à risque qu'on dit ordaliques, c'est-à-dire qu'ils se mettent au défi de Dieu. Si j'y arrive, c'est que je vaux quelque chose, c'est que je suis plus fort que ça. Et ça marque bien la mésestime de soi dans laquelle se trouvent pas mal de jeunes adolescents qui ne savent pas où ils en sont et qui peuvent être amenés à faire du passage à l'acte délictueux et entrer en délinquance. Voilà.
Tu viens de dire quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Le malaise des adolescents, le mal-être, etc. Mais nous, les adultes, on est vraiment clair avec ça ?
On n'est pas clair du tout.
D'accord.
Mais donc, ça s'entretient aussi, ça. À savoir que bien souvent, regardez...
Ça ne marche pas. Hein.
Oui, alors regardez bien que... c'est vrai que beaucoup d'adultes marchent sur la tête, hein, c'est vrai.
Pas beaucoup. Mais que. Il n'y en a pas beaucoup, il fait tous qui marchent sur la tête. Je regrette de le dire. Bon.
On n'est pas loin d'être d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la crise d'adolescence, elle arrive justement dans un contexte de crise sociale et de crise identitaire. Hein, et que bien souvent, le père ou la mère d'un adolescent, quel âge il a, il a 40 ans, c'est la crise de la quarantaine. Ça s'ajoute encore. Et voilà, le cercle est bouclé. Et donc, comme Jean-Marie disait, il faut être allé dans ses baskets pour rassurer un gamin qui commence à être anxieux, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, il faut qu'il va décompenser, qu'il va peut-être devenir fou. Et il faut arriver à le neutraliser, à le calmer, à le rassurer, à le sécuriser. Il faut pour ça être bien dans ses baskets. Et qu'est-ce qu'il rencontre autour de lui ? que des gens qui vont lui dire « Ah ben fais ci », un autre va lui dire le contraire. Et à quoi il va s'en référer? Alors il va s'en référer, s'il est vraiment mal, et ben là on voit les origines de l'intégrisme, des fondamentalismes, des communitarismes, des gens qui se réfugient dans des idéologies, qu'elles soient politiques, religieuses, ou qui vont bousculer l'ordre établi.
Donc on pourrait dire quelque part que ce sont les interdits de toute nature, et y compris sexuels, dont on ne parle pas jamais, qui font qu'on se trouve dans cette situation où les jeunes ne peuvent pas faire confiance à la société qu'on leur propose. Et bien souvent, vous entendez des gamins dire à leur père « Écoute, moi je ne veux pas faire le boulot que tu fais, hein. T'as un boulot de con. » Pourquoi ils disent ça? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que véritablement, nous, adultes, vous avez dit responsable tout à l'heure, je continue de dire qu'on n'est pas du tout responsable. Hein, on fait ce qu'on nous demande de faire, et sans aucune responsabilité, on nous a tout enlevé. Donc, comme ça, ça marche très bien, on est dans un cadre et on fonctionne. Les enfants ne veulent pas ça. Et s'ils ne veulent pas ça, c'est parce qu'ils ont besoin d'autre chose. Et le besoin d'autre chose, nous, on l'a senti quand on était ados. Effectivement, on est rentré dans le rang. Autrement, ça passe ou ça casse, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement. Le problème, il est que la société rétrécit de plus en plus les libertés des individus et de moins en moins de possibilités pour les jeunes de se réaliser ou de s'accomplir dans le cadre qu'on leur met, d'autant que le chemin se rétrécit et on met des cailloux au milieu. Comme ça, on se casse bien la gueule. C'est tout. Je veux dire qu'il y a une révolution à faire au niveau social qui est vachement importante et on est là, on attend, on ne dit rien et on a tort parce qu'on est en train de gaspiller notre jeunesse. Hein. À commencer par l'école qui n'est pas une école mais qui est une caserne. Hein. On vous apprend à marcher droit, un point, c'est tout. Voilà.
Je dirais le contraire.
Pardon ?
Moi, je pense le contraire par rapport à l'école.
Donc, vous avez le droit.
On n'a pas le même point de vue là-dessus. Oui.
Moi, je vous engage à lire un petit bouquin qui s'appelle...
Non, mais la vraie vie, déjà. Sans lire les bouquins, voir ce qui se passe auprès des enfants, des petits-enfants.
J'ai été enseignant, monsieur. Là, je sais.
Moi, je suis parent. En tant que parent.
Je suis parent aussi. Bien sûr.
Vous n'avez pas le monopole, là.
Moi, je voudrais revenir un peu en arrière parce que tout à l'heure, j'étais un peu troublé, je me retrouvais mal sur les espèces de condamnations qu'on peut faire ou les jugements qu'on porte sur la famille, sur la société, sur je ne sais quoi. Alors, on peut y être, ça ne sert à rien. Alors, par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est-à-dire un dysfonctionnement familial, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de comprendre l'effet qu'a sur l'enfant ce dysfonctionnement familial. C'est pas obligatoirement, on va dire, oui, ça dysfonctionne, et une fois qu'on a dit ça, ok, mais quel effet ça a sur l'enfant? Là aussi, moi, je reviens sur la question de la compréhension des objets. La question du travail, du mauvais boulot, du travail de con, etc. Ok, effectivement, alors quelles sont les représentations qu'a l'enfant, comment on peut le comprendre? Et comment on peut l'accompagner dans quelque chose? Alors, c'est vrai que si pour nous, rien ne va, tout est à modifier, etc., dans ce sens-là, qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être révolutionnaire, avoir des positions révolutionnaires, etc., mais je crois que ça ne sert à rien. On ne fait que renforcer le fait que le gamin se paume par rapport à ça. Moi, je crois que c'est effectivement prendre un peu de recul par rapport à des positions comme ça qu'on peut avoir, des condamnations qu'on peut avoir, pour comprendre l'effet que des dysfonctionnements peuvent avoir sur l'enfant et éventuellement l'accompagner de manière à ce qu'il en souffre un peu moins et qu'il trouve, lui, sa voie.
Alors, ça veut dire être toujours positif par rapport à l'enfant?
Pour moi, oui. Pour moi, c'est indispensable.
Ce qu'on faisait jusque-là, c'était de généraliser. On parlait des adolescents, de la société, des parents, de l'école, de ça. Alors que toi, tu parles de la relation individuelle, qui est celle de l'ouverture, de la rencontre et de la compréhension, avec laquelle je suis tout à fait d'accord.
Mais de la prise en compte de l'environnement, comment on le prend en compte?
Quel impact l'environnement a-t-il sur le parcours de ce jeune?
Alors, la question serait, après votre expérience, c'est quel dysfonctionnement qui fait basculer de jeunes vraiment dans la délinquance. Je ne parle pas de voler un jouet gamin dans un magasin.
Qu'est-ce que c'est qu'il fait de...
C'est quoi qui les...
Je n'aurai pas de réponse. Ça ne peut être qu'une réponse, une réponse individuelle. Et effectivement, il peut. Non mais attends.
Il peut. Dans l'expérience, qu'est-ce que tu as vu?
Plein de paramètres différents, plein de parcours différents. On peut difficilement généraliser.
J'essaye de retrouver des situations. Alors, commence à se faire un peu vieille là-dedans par rapport au. Par rapport au délit, mais j'en vois un par exemple sur qui était sur Rodez à un moment donné, et c'était déposition d'autorité autoritariste du père, c'est-à-dire le père qui était carré comme ça, sans aucune discussion possible, et que par rapport à ça, le gamin est devenu effectivement délinquant. Il a fallu qu'il aille à l'encontre de l'autorité paternelle. Qui était une autorité sans compréhension, hein, c'est-à-dire l'autoritarisme. Voilà. Mais bon, c'est un exemple qui me revient parce qu'il m'avait marqué. Il y en avait un autre, je le revois un peu. Il est dès qu'il sortait je ne sais pas pourquoi, hein, mais dès qu'il sortait du bâtiment dans lequel on était, il pétait les plombs. Voilà, c'était vraiment l'opposé de la claustrophobie, donc comment ça s'appelle, oui c'est ça, je crois.
L'agoraphobie.
Oui, alors c'était l'agoraphobie, effectivement. Bon, puis j'ai jamais su pourquoi, mais sinon, après, c'est sans comprendre à ce moment-là, avoir des positions rassurantes. Voilà. Mais c'est vrai que je crois que je suis un optimiste, fondamental, ce qui ne m'empêche pas. De voir les difficultés qu'il peut y avoir, etc., de les prendre, mais de dire, bon, mais ok, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire, et par rapport à l'analyse que je peux faire des situations, c'est vrai que je les fais toujours avec un regard optimiste.
Jean-Marie, tu disais tout à l'heure que quand tu étais à Versailles, une fois, comment dire, que l'adolescent ou le post-adolescent avait trouvé un travail, mais je veux dire, c'était pas se gagner, puisqu'il y avait une insertion, et le travail était une valeur repère. Aujourd'hui, sans faire de politique, il y a plus de travail. C'est-à-dire que maintenant, il y en a qui envisagent de donner une sorte de RSA, ou alors, qu'est-ce qu'on va faire, comment dire, où c'est que sera la valeur travail qui était une valeur de notre société, je ne parle pas de la famille. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire, comment dire, que vont faire les éducateurs pour insérer, comment dire, les jeunes dans la société?
Et je crois que c'est ce que disait monsieur, là. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser la question du travail. On est obligé de se la poser. C'est-à-dire quel est le sens du travail et qu'est-ce qu'on va faire par rapport à...
J'imagine, comment dire, les parents aujourd'hui qui ont des jeunes.
Ah non,
mais... Dans les discussions, comment dire, avec les adolescents.
La question, je ne me la pose plus pour mes enfants, mais pour mes petits-enfants. Je ne suis pas dans la même place.
Bon, je pense qu'il y a plein de travail qui serait nécessaire de faire, mais qui n'est pas payé. Il faut peut-être... distinguer entre ces valeurs travail productiviste qui est payé et le travail de société qui est aussi nécessaire d'aller dans un hôpital lire un bouquin à une dame qui ne peut plus se lever. C'est un travail nécessaire pour cette dame, mais qui va le payer personne. Et avec un... il faut redéfinir qu'est-ce que c'est du travail qui est nécessaire. De construire des postes, des tanks, des fusils, des revolvers. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, bon d'accord, c'est un boulot. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien, bien pensé? Bon, pour moi, ta définition de travail, c'est trop simple.
Déjà, si une valeur, c'est un repère. Hein, parce que si
on a ouais, ça, dans la discussion, centrale nucléaire, super, ça fait du travail.
Mais ça veut dire qu'une société, comment dire, est hyper riche, peut donner de l'argent. Déjà que les hôpitaux, ils ont des infirmières, n'arrivent plus à faire leur travail. Alors que lire des livres, je ne sais pas qui c'est qui va plier, si c'est l'hôpital qui va plier. Hein. Dire, là, aujourd'hui aussi, il y a de la gabegie, comment dire, d'un niveau du jeu, alors ça... Parle d'un directeur de citage.
Et avec un revenu de base que tu as, tu peux faire des travaux qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas productivistes. C'est justement là.
Okay. Je crois que ce n'est pas ce soir qu'on va résoudre la question du travail. En plus, elle est d'une actualité brûlante dans le monde politique. Oui, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est la fugue. La fugue des mineurs. Alors, il y a 50 000 fugues par an en France qui sont déclarées, et on peut penser qu'il y en a le double, une centaine. Et un élément qui paraît important, je lisais ce texte, je ne sais pas, oui, c'était du rap de 31, qui est, quand un adolescent fugue, il faut le chercher. Il faut rentrer dans son jeu, c'est-à-dire que s'il s'en va, c'est aussi pour qu'on le recherche. Voilà. Et alors qu'il y a un certain nombre qui disent... je crois que ça me paraît intéressant d'entendre ça. Et je crois qu'on peut lire avec cette lecture les départs pour le Moyen-Orient, pour la Syrie. C'est-à-dire, quelle signification ça a de partir pour la Syrie, au-delà d'un schéma de radicalisation, etc. Mais les adolescentes, puisque c'est essentiellement des adolescentes, me semble-t-il, ou les adolescents qui partent en Syrie, qu'est-ce qui se joue dans leur tête par rapport à leur place et par rapport à leur statut social? Alors voilà, j'ai pas de réponse là, mais je crois que c'est une question qu'il est intéressant de se poser au-delà de tout ce qui tourne autour de la radicalisation. Voilà. Donc je l'évoquais parce que j'avais trouvé ce document qui me paraissait intéressant.
Moi, si j'avais un enfant qui avait fugué, c'est sûr que je l'aurais cherché. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et je crois que c'est ça qui est important pour l'enfant. Si on ne cherche pas, c'est qu'on ne l'aime pas. Qu'est-ce que ça va lui faire à lui de ne pas être aimé? C'est encore pire.
Tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais je crois que c'est effectivement le rechercher, c'est lui manifester aussi cet amour qu'on peut avoir pour lui.
Et l'intérêt qu'on a pour lui. Et la valorisation que ça va lui apporter, que de se sentir aimé au niveau de l'estime de lui-même. Sinon, il ne sera personne, effectivement.
Si je l'indiquais, c'est aussi comprendre quelle est la signification de sa fugue pour rentrer aussi dans ce cheminement et le prendre en compte. Enfin, c'est accompagner ça.
Nous, on a vécu ça avec notre fils qui est adopté, qui est parti. Le jour au lendemain, comme ça, il nous a dit, je m'en vais. Et il a fait de foyer en foyer en Alsace, et on ne le trouvait pas. Donc j'ai fait plein d'appels, et quand je l'ai trouvé, il me dit, pourquoi tu m'as cherché? J'ai dit, parce que tu es notre fils et tu le resteras toute ta vie. Tu t'appelles comme nous et tu ne veux pas l'enlever. C'est comme ça. Et c'est passé plus facilement après dans les discussions et tout. Bon, c'est toujours difficile. Puisqu'il fuit le travail au maximum. Donc, dès qu'on lui en propose, il se barre. Voilà. Mais on a contact. Voilà. D'accord. Donc, on se satisfait de ce contact-là. Mais il faut rechercher. Ça, c'est clair et net. Il faut rechercher.
Tout à fait.
Voilà.
Mais par rapport au flux, hein, je veux dire là-dessus, toutes les institutions sont concernées par rapport au flux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un seul mineur de la fugue est déclaré qu'il ne soit pas recherché.
Oui, mais non, mais attends, il y en a qui ne sont pas déclarés. Hein. Ah non, non, mais...
Je parle après.
Oui, l'institution a obligation de le faire, mais des fugues de la famille, il y en a des... Là, je te dis, 50 000 de déclarés, il y en a 50 000 qui ne sont pas déclarés.
Si on regarde les raisons pour... La délinquance ou de la radicalisation, il n'y a pas aussi cette recherche d'être singulier, d'être quelque chose autre que les autres. Par exemple, d'être admis dans une groupe un peu radical, un peu sectaire, c'est quand même, on est élu. On va te dire que toi, t'es pas comme les autres, toi, tu es mieux, t'es quelque chose, quelqu'un qui... Pour un adolescent, c'est quand même un truc. Il a la recherche de quelque chose. Et il y a des groupes ou des situations qui lui donnent un statut de singulier.
Bien sûr. Oui.
Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, des rituels de passage où on distancie le sujet et où on le fait appartenir à un groupe et où, à partir de ce groupe, il va renaître à la société dans un autre statut, celui d'adulte. Et ça, c'est du bricolage dans la radicalisation, c'est du bricolage total où, effectivement, le sujet se trouve lui-même un groupe d'appartenance en opposition à ses groupes d'origine, en pensant se valoriser dans ce groupe et y trouver sa solution, dans l'extrême.
Est-ce que ce que tu as évoqué, le rituel de passage, est-ce que la mise en danger volontaire ou inconsciente de l'adolescence, ce ne serait pas justement pour se trouver à lui-même des rituels de passage?
Oui, voilà. Toutes les conduites à risque.
Qui sont organisées dans les tribus dont tu as parlé, vachement organisées.
Voilà.
Mais là,
dans nos sociétés modernes, c'est du bricolage, c'est pas organisé par les adultes, c'est les jeunes eux-mêmes qui se bricolent des rituels de défi et de passage, avec des confrontations à la mort, qui vont très loin, et pour mettre en jeu symboliquement leur renaissance, leur possible renaissance s'ils arrivent à dépasser cette épreuve. C'est exactement ça.
J'ai une série de dessins là. Alors je lis là, vous pouvez pas le voir sans doute, c'est un gamin là, et dessous, il t'arrive de prison pour vol d'un lapin qu'il a partagé avec sa grand-mère. Remercie la justice, on aurait pu t'envoyer la grand-mère. Tu n'obtiendras rien de la contrainte. Tu pourras à la rigueur les contraindre à l'immobilité et au silence, et ce résultat durement acquis, tu seras bien avancé. Voilà. On va pas passer. Les parents, ça contredit un peu ce que je disais. Ils ont mis 15 ans et 9 mois pour faire de leur fils ce qu'il est, et ils voudraient qu'en 3 semaines, tu en fasses un enfant modèle. C'est un des problèmes auxquels on est confronté parfois.
Et avant, j'aimerais bien savoir, dans votre expérience professionnelle, là, c'est pas facile à dire en pourcentage, mais est-ce que vous avez eu beaucoup d'exemples de jeunes qui, en ayant été délinquants, revenaient pas dans le droit chemin, parce que c'est une expression qui est limitée, mais dans un bien-être de vie, enfin, où c'était réversible, et comment, par quel biais, bon, avec la bienveillance, l'écoute et tout, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, sur ceux qui arrivent à rebasculer du tout côté positif de la vie et...
C'est difficile à évaluer. Ça, on peut pas en prendre la mesure parce qu'on n'a pas tellement de retour là-dessus. Une fois que le jeune est passé en justice, le seul indicateur qu'on puisse avoir, c'est qu'il ne récidive pas. Ou alors, épisodiquement, ben voilà, si ça va bien, on n'en entend plus parler. Et donc, ou alors, épisodiquement, si on le croise un jour dans la rue et que ça arrive, et qu'il nous donne des nouvelles. Ou qu'il y a eu un accrochage particulier à la relation et qu'il passe nous voir de temps en temps parce qu'on lui a apporté quelque chose dans le petit parcours qu'on a eu en commun. Et voilà. Mais sinon, globalement, on ne peut pas prendre cette mesure statistique-là. C'est difficile.
Ça doit être assez frustrant, ça, de ne pas savoir.
Ah oui, complètement.
C'est là qu'il y a un problème institutionnel, quand même. C'est que ce serait normal, puisque vous êtes des éducateurs, qu'on vous a confié la responsabilité de rééduquer un enfant, ce serait tout à fait normal que vous ayez de temps en temps des retours. Oui. Si j'ai rencontré à nouveau, quand ils sont sortis de l'auberge, ne serait-ce que pour vous dire comment ils ont vécu ce que vous leur avez fait.
Ça participerait de notre expérience, et c'est sûr. Hein. Sauf que voilà, dans la société morcelée institutionnellement dans laquelle nous vivons, des relais se passent, les jeunes ont leur parcours, la fluctuation géographique, l'endroit où ils vont aller, l'éloignement, les disparités de parcours, et voilà, on n'en entend plus parler.
Oui, mais c'est jeter le manche après la cognée.
C'est dommage.
Comme ça un petit peu.
C'est dommage.
Je veux dire qu'on pourrait très bien envisager de faire autrement, c'est-à-dire de dire, bon, moi je veux bien me charger. Effectivement, ce n'est pas le cas actuellement. Je veux bien me charger de travailler à remettre un gosse dans le droit chemin, mais je voudrais savoir ce qu'il devient. Parce que les 3 mois dont vous parliez tout à l'heure, alors que les autres ont eu les parents 15 ans pour les remettre en... Il y a quand même, effectivement, de quoi être frustré. Je suis tout à fait d'accord. Donc, quelque part, il faudrait que vous ayez la possibilité... que vous la revendiquiez, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais la possibilité d'avoir un retour. Même si les enfants sont loin, on a des moyens maintenant pour communiquer éventuellement et pour avoir des retours.
Je n'ai pas été dans la même situation que Gérard, mais à Versailles, à Rodez, à la liberté surveillée, à Toulouse, à l'ISE, l'institution sociale et éducation surveillée, et ou encore, j'ai souvent eu des nouvelles des gamins que j'avais connus. Voilà. Alors, et, certains, j'ai appris qu'effectivement, ils étaient en tort.
Comment, mais... Oui, c'est ça. Mais comment tu as eu des nouvelles?
Par des rencontres, par les autres travailleurs sociaux, ou par des gamins, c'est-à-dire soit des courriers qu'ils pouvaient envoyer. Et j'ai eu des visites de gamins... à Rodez, oui. Voilà, des visites de gamins qui venaient me voir, me dire comment ça va, voilà. Et c'est très... ça fait plaisir.
C'est laissé au hasard, c'est pas institutionnel. Voilà.
Mais c'est laissé au hasard.
C'est tout à fait aléatoire.
Puis il y en a beaucoup qui seraient pas forcément d'accord pour continuer à être...
à être pointé.
Une fois qu'ils sont passés par là,
ça fait le droit de vie.
Voilà.
Puisque je vous dis que tout va bien.
Oui. Il m'a fait assez suer, ça va, ça suffit.
Oui, on vient lâcher-moi les basques.
Tout à fait.
Je ne vais pas passer ma vie à rencontrer l'éducateur.
Donc c'est difficile d'avoir effectivement un recul là-dessus, parce qu'on ne peut pas les obliger à donner des nouvelles. Ils ont pas envie.
Puis le cumul,
ça pourrait être même pas rappelé. Je ne parle pas de l'immédiat, moi. Hein. Je veux dire qu'avoir des nouvelles, c'est pas forcément dans l'année ou les 2 ans qui ont suivi.
Le cumul des prises en charge rend difficile aussi cette prise en compte, parce que c'est vrai que quand on a 25 ou 30 dossiers à gérer en même temps et que dès que l'un sort, un autre rentre, c'est un flux permanent. Au bout d'une carrière, on voit 800, 900, 1000 sujets, peut-être plus. Et c'est vrai qu'il y en a dont je ne me souviens pas, c'est sûr.
Quand j'étais à Rodez, il y a une fille dont je m'étais occupé qui m'a demandé à être le parrain de son enfant. Bon, chose que je refusais parce qu'il faut aussi la distance, que je l'orientais ailleurs. Mais
parce que vous étiez musulman.
Pardon.
En fait, quand on est amené à agir, quand il y a un problème, on voit tout en creux. Hein, et puis, quelque part, c'est normal qu'on n'ait pas à intervenir quand tout va bien. Quand tout va bien, tout va bien.
Tout à fait.
Donc, sauf à faire des études spécifiques sur un panel.
Bien sûr.
Demander qui veut participer à l'étude.
Faire une étude sur un échantillon statistique dans le temps et suivre. Ouais.
Mais on ne peut pas demander à tous ceux qui sont passés par
Tout à fait. pour la petite histoire, en 1962, sans doute, on m'a demandé de vider la prison de Rambouillet. C'est-à-dire, à Rambouillet, il y avait une prison pour mineurs, et il y avait une dizaine ou une quinzaine d'adolescents qui étaient incarcérés. Et comme ils voulaient détruire la prison, ils m'ont dit « trouver des solutions pour... ». Voilà, mais alors la solution, c'était le point d'accueil, le travail, bien sûr, c'était... voilà. Et puis éventuellement le contexte dans lequel ils allaient vivre.
Donc, si je comprends bien, tant qu'ils n'avaient pas besoin de détruire la prison, les jeunes, ils pouvaient rester enfermés. Hein. Il y a bien quelque chose à changer.
Ah oui, non, mais ça peut être charmeux. Écoutez, moi, j'ai vu le prochain congrès du syndicat de la magistrature et de deux organisations syndicales de la protection judiciaire de la jeunesse, et qui partent en bagarre contre les perversions qui sont portées sur l'ordonnance de 45. Et je dis, moi, je fais aussi confiance à des magistrats, à des avocats aussi, et à des éducateurs par rapport à un respect et à accrocher des libertés des gamins. Voilà, oui, et au respect du
c'est pas ces gens-là que je m'en cause. Hein.
Ah d'accord, ok, d'accord.
Oui, non, soyons très clairs. Parce que ceux qui font les lois, puis il y a ceux qui doivent les appliquer.
Ah ben oui, après, ça, c'est autre chose.
Je voulais vous demander quels sont les partenariats qui se mettent en place quand un jeune bascule dans la délinquance, et les partenariats qui sont vertueux, qui font qu'un jeune va s'en sortir.
Alors, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est sur Rodez. Il y a la MJC de Rodez, par exemple, qui accueille un certain nombre de jeunes qui sont en liberté surveillée. Ils font des activités avec eux, il y a un certain nombre de choses. Il y a les établissements aussi. Il y a des établissements, bien que sur l'Aveyron, actuellement, en termes de délinquance, Grèze ne le fait plus, Millau-Ségur ne le fait plus, Loustal ne prend plus de délinquants, ils n'ont plus l'habilitation, je crois.
Il a 12 ans.
Et Émilie Drodin non plus.
Il a 12 ans.
Il reste quoi? Hein? Il a peut-être tout passé, là.
Et non, mais ils prennent en protection de l'enfance.
Ah oui.
Ah oui, non, mais ils n'ont plus l'habilitation 45. Donc ils prennent plus de délinquants.
Village 12.
Pardon?
Village 12,
mais il n'est pas. Oui, mais il y a, bon, voilà, Village 12, qui est une association de Villefranche de Rouergue, travaille beaucoup avec des adultes d'ailleurs, qui sont plus présents, et des jeunes. Voilà, c'est eux qui font des stages de citoyenneté, c'est-à-dire qui accompagnent par exemple des jeunes dans tel service. Donc les stages, les réparations, la fonction de réparation, voilà, les collègues. Alors, après, il me semble important, en fait, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, de travailler avec ceux qui sont en place. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gendarmes, par exemple, pour des questions de toxico. Voilà. Et moi, ça a toujours bien fonctionné, dans des places qui étaient claires, des places différentes. Mais n'empêche que je trouve qu'on pouvait avoir un discours cohérent, même s'il y avait des tendances, voilà, par rapport au cannabis, par exemple, on pouvait avoir des positions différentes. Mais je crois que ça, il faut le travailler. J'avais monté sur Rodez un groupe interinstitutionnel, l'éducation nationale, les médecins scolaires, la gendarmerie, la police. Non, elle n'a pas voulu venir. Voilà, il y avait toutes les institutions, l'ASE qui était là, la PJJ bien sûr, et d'autres, qui sont des partenaires, c'est-à-dire les collèges, les écoles, ce sont aussi des partenaires avec lesquels il faut travailler. Voilà, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, parce qu'en plus, je ne sais plus trop actuellement avec qui ils travaillent. Ça fait un peu trop de temps que j'ai pris du recul. Mais aujourd'hui, enfin moi, je suis parti quand il fallait. Je crois que je ne pouvais plus travailler dans les services tels qu'ils évoluaient. Et aujourd'hui, je serais incapable de travailler dans ces services.
Il
n'y
avait pas le gouvernement Sartre aussi l'idée que dès qu'il y a un homme qui est déjà plutôt jeune, qui Le style de mal comportement, qu'on fasse un dossier, qu'on garde un œil sur ce gamin. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce dispositif?
Il y a eu de telles levées de boucliers que ça a été abandonné. C'était délirant. De toute façon, tous les gens de la profession se sont mobilisés pour aller à l'encontre de ce dispositif-là qui tendait à repérer les dysfonctionnements psychiques chez les enfants de la maternelle.
Oui, la maternelle est presque de
moins de 3 ans, de la crèche. Voilà.
J'avais oublié ça.
Avec des critères très précis d'appréciation de leur situation sociale, si par exemple leur mère ne parlait pas français. Enfin, il y avait tout un dispositif vraiment qui ne se tenait pas.
Je trouvais peut-être d'autres réponses que celles que j'ai données. Mais...
Qu'est-ce qui fait ses preuves et qui fait qu'un jeune va s'en sortir, quoi. Il y a des choses peut-être qu'on s'aperçoit que. Des pratiques professionnelles qui font leurs preuves et qui font qu'un jeune s'en sort. C'est peut-être du partenariat, c'est peut-être plein de choses, mais
qu'est-ce qui marche
pour aider un jeune,
pas savoir puisque on n'a pas beaucoup.
Tout dépend du jeune.
Bah ouais,
ça dépend du jeune et ça dépend de la relation qu'on a avec lui, de notre capacité à le comprendre, à établir une confiance avec lui, à s'intéresser à lui, à le revaloriser, à lui réintroduire un peu d'estime de soi s'il est au cinquième dessous et à lui faire entendre qu'il est capable de quelque chose. Comme je le disais souvent, moi, aux jeunes que je rencontrais, mais j'ai jamais rencontré un jeune qui est un bon à rien. J'ai jamais rencontré un jeune qui ne savait rien faire. Alors, qu'est-ce que tu sais faire, toi? On va voir qu'est-ce que tu sais faire. Et on le met à l'épreuve. Et il faut que ça se passe dans une relation de rencontre. Il faut que le jeune soit en confiance. Et bien souvent, on a affaire à des jeunes qui ont perdu toute confiance dans le monde adulte et qui se retrouve devant un éducateur de la justice, un juge, un psychologue et à qui il faudrait qu'ils répondent immédiatement. C'est pas possible, ils n'ont pas demandé à être là. Ils n'ont pas demandé à être là. Quand bien même leur passage à l'acte est peut-être un appel au secours parce qu'ils vont pas bien, c'est pas devant un juge ou un éducateur ou un psychologue qu'ils ont envie de s'exprimer. Donc le but de notre intervention, c'est d'arriver à ouvrir cette porte. Comme disait Dolto, dans un des livres qui est là d'ailleurs, le jeune, l'adolescent, c'est un homard qui a une carapace. À peine on touche à vif que la carapace se referme. Et c'est ça, c'est la première rencontre avec le jeune qui est déterminante pour la suite de la relation. Ne serait-ce que dans le regard, dans l'attitude, la neutralisation de l'agressivité ou du mal-être qui peut s'installer entre nous. Ça c'est un défi de nos fonctions, en fait. Arriver à raccrocher cette relation sur ce mode-là. Éveille la curiosité du jeune. Il se dit, mais qui c'est celui-là ? J'avais pas envie de venir le voir, mais qui sait. Une fois, j'en ai un qui s'est arrêté. Il est rentré, c'était un tagueur de Rodez, et il avait le côté rebelle, hein, complètement opposé à la société, etc. Et il avait pas du tout envie de rencontrer un psychologue. Il disait, je suis pas fou, je vais pas avoir un psychologue, je suis pas fou. Pourtant, de par la décision de justice, il était obligé de rencontrer un psychologue. Et c'est là tout le défi que moi j'avais dans ma fonction, à savoir passer ces barrières-là, de l'obligation qui lui est faite alors qu'il ne veut pas me rencontrer. C'est là tout le défi que j'ai et tout ce que je dois développer pour ouvrir cette porte. Et le gars, il est arrivé, il est rentré dans mon bureau. Il a pris la chaise qui était devant, il l'a tournée, il m'a tourné le dos, il s'est assis, et il m'a rien dit. Et alors, c'est moi qui ai parlé pendant une heure, je lui ai dit des trucs. Et puis, je lui ai donné un rendez-vous suivant. Et le rendez-vous suivant, il est venu, pareil, il s'est assis là, de dos, mais il a parlé. Et puis là, c'est lui, par contre, un de ceux qui m'ont donné des nouvelles bien après que le dossier de justice se soit clôturé. Voilà.
Moi, je ne sais pas ce qui a marché. Je ne sais pas, mais des fois, ça marchait.
Voilà.
Voilà, je vois que c'est un peu ça. Après, qu'est-ce que c'est qui avait marché?
Et ça peut tenir à peu, ça peut tenir à une phrase, ça peut tenir
à un
regard, une attitude, un événement vécu comme ça.
Il y a une question qu'on n'a pas évoquée aussi, c'est la question de la violence. Hein, c'est-à-dire alors, la violence à l'extérieur, etc. Mais la violence par rapport aux éducateurs. C'est-à-dire que moi, je me suis trouvé plusieurs fois dans des situations effectivement de violence, de chaises qui étaient brandies sur moi. Ou etc. Alors là aussi, c'est comment on prend le gars. Et ce qui est important, tant pis, je parle un peu de moi là, je me rappelle d'une fois où, alors j'étais à Versailles, je démarrais, hein, et il y a un gamin effectivement qui prend une chaise et qui me menace avec. Je prends la chaise, là, je prends le gamin et je l'envoie valdinguer sur un canapé qu'il y avait là, voilà, dans ma réaction. Et heureusement qu'à ce moment-là, il y avait un psychanalyste à côté. Bon, après, j'ai pu aller le voir parce que c'était quand même un peu dur. Je suis allé le voir et je lui avais parlé de l'Algérie où j'ai sauté sur une mine, enfin bon, etc. Et il me dit, mais tu viens de revivre là ce que tu as vécu à ce moment-là. Et je crois que c'est intéressant, si vous voulez, d'avoir à un moment donné quelqu'un qui vous aide à piger quel est votre comportement, qu'est-ce que c'est qu'il en est. C'est-à-dire de ne pas être tout seul dans des situations comme ça, surtout les situations de violence qui sont importantes. Alors, dans les rapports de force, ils y sont. Quand j'ai débarqué, alors Savigny-sur-Orge, c'était un centre d'observation où il y avait un groupe d'accueil, un groupe pour les malades mentaux, un groupe pour les débiles légers, un groupe pour les intellectuels, et il y avait un mitard. Et chaque soir, on fermait. J'arrive et l'éducateur plus ancien me dit, écoute-moi, il y a 3 mois que je n'ai pas pris de congé, tu as les clés, tu te débrouilles. Je débarquais d'Algérie, moi, donc je connaissais absolument rien. Et quelque chose qui m'a permis, si vous voulez, de faire face à la difficulté, j'étais dans le groupe des malades, pas malades mentaux, des débiles légers, voilà, merci, et bon, tout très, 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 très violent. Et ce qui m'a sauvé, je crois, c'est le fait d'avoir une carrure, et je leur ai dit, mais moi, j'ai fait du karaté, à l'armée, j'ai fait du karaté. Voilà. Et ça passe, qui permet, après, de passer à autre chose. Mais que si on est effectivement dans une position de fragilité, on ne rassure pas celui qui est en face, et on peut soulever, effectivement, la violence dans cette... Excusez-moi de parler de moi comme ça, mais aussi.
Moi, je voulais dire aussi par rapport aux parents que trop souvent on reste isolé dans son coin avec ces difficultés-là, alors qu'on pourrait peut-être, en échangeant avec d'autres, trouver des solutions. Enfin, d'abord se déculpabiliser.
Tout à fait.
Et puis avancer, parce que quand il y a une opposition entre un ado et ses parents, c'est vraiment dur à vivre. Enfin,
tout à fait.
C'est difficile d'en parler aussi. Moi, je suis passée par là et en parler, c'était très difficile. Il y en a d'autres très, très difficiles. Mais à condition
que les autres parents avec qui vous en parlez ne vous donnent pas une réponse tout de suite. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Parce que, tiens, avec lui, il y a cette difficulté. Ah oui, mais tu sais, moi, je connais quelqu'un qui, etc. Alors, arrêtons. Écoutons. Mais c'est la réflexion, c'est une position de défense, en fait.
Ça s'apprend, bien sûr.
Oui. Ce que je vous ai dit, en tout cas, je ne vais pas parler au nom des gens, par rapport à la rééducation, moi, je l'appliquerai aussi volontiers à la formation. C'est-à-dire, quand vous êtes formateur, par rapport à d'autres, y compris la formation d'adultes, il y a toute cette présence, cette écoute de l'autre qui m'apparaît indispensable. Et de permettre à celui qui est en formation, effectivement, d'utiliser au maximum ses capacités. D'ailleurs, ça nécessite de la disponibilité, de l'écoute et de... et du temps, voilà, mais bon.
Moi, je voudrais dire un truc, il me semble que par rapport à, si on compare l'ado qui marche bien, entre guillemets, et l'ado qui a des difficultés, il me semble que dans l'ado, ça se passe bien, il y a une motivation, il y a une passion, il y a une passion pour le sport, il y a une passion pour la musique, il y a des motivations, et que moi-même, il y a eu des stagiaires ou des jeunes ados comme ça, qui n'ont aucune motivation, c'est dur parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui peut les intéresser, qu'est-ce que c'est qui peut les attirer. Et si le jeune n'est pas attiré par rien, ben je pense qu'effectivement, ben là, il est mal et puis il va zigzaguer. Quoi. Et comment faire en fait pour que, justement, chez le jeune, on puisse détecter quelque chose qui le prenne. Parce qu'un jeune qui est vraiment bien dans un sport ou qui est vraiment bien à, je sais pas, sur de la musique ou autre, ben, il se trace sur un chemin.
Tout à fait, oui.
Mais voilà, c'est comment en fait sentir ce...
Qui n'est attiré par rien ou qui est attiré par tout. Alors, vous l'avez peut-être vu, là, il y a une vidéo, qui, je ne sais plus en quelle langue, d'un prof qui est de philosophie, qui arrive face à sa classe, et des mômes qui ne semblent pas du tout faciles, avec un bocal. Et il commence par le remplir de boules de tennis. Voilà. Et il dit, est-ce qu'il est plein? Et oui, il est plein. Puis il met des cailloux. Est-ce qu'il est plein? Et puis il met du sable. Et puis il explique après que les boules de tennis, c'est ce qui est important dans la vie, etc. Alors que le liquide qu'il met après, ça, c'est tout à fait secondaire. Mais moi, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qui est, pour moi, c'est sur l'écoute à un moment donné. C'est-à-dire permettre à l'enfant, à un moment donné, de prendre conscience de quelque chose qui est vrai. Parce qu'ils ont des rêves qui peuvent être enfouis. Il y a des rêves, c'est-à-dire quels sont leurs rêves. Et ces rêves enfouis parce que on leur a dit que oh, mais non, c'était pas possible, etc. Mais même avec vos enfants, le risque c'est, eh bien, ils voudraient faire quelque chose. Ah oui, mais alors attends, est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que... Alors, on en est tous sur ces précautions. Et pour permettre de sortir, voilà, mais... Voilà. J'espère simplement que dans ma carrière, j'en ai aidé 4 ou 5, et puis...
Le rendement est mauvais par rapport au salaire
accumulé. Tout à fait, c'est bien ce que je me dis. Mais écoute. Vous êtes courageux et patient, je trouve. Non, mais... Bon, ceci dit, j'ai fait ce boulot. Et vraiment, je ne le regrette pas. Et je suis heureux d'avoir fait ce boulot-là. Alors, sur les feuilles, il y avait éducateur retraité. Alors, quand ma femme a vu ça, elle a éclaté de rire. Elle a dit, éducateur retraité là-dedans. Elle a dit, oui, quand même, j'aurais dû mettre directeur honoraire de la protection judiciaire de la jeunesse.
Je t'avais soumis quand même le texte. Je ne savais pas comment le traduire.
Je n'avais pas vu, moi. Non, mais ce n'est pas votre faute.
Non, mais je dis ça aussi à Romain, parce que c'est vrai que quand on fait le petit flyer pour présenter, pour que les gens sachent que ça existe, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment on présente. Alors, la plupart du temps, on a contact avec le conférencier et on lui demande comment vous voudriez vous présenter sur le papier, le petit document. En général, on y envoie même, parce que c'est à distance souvent que ça se fait, on envoie un exemplaire à passer où on voit que quelqu'un se présente d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, donc là, c'est moi qui ai trouvé l'éducateur retraité. Oui, il l'a accepté, mais je ne savais pas l'histoire par derrière.
Et pour tout vous dire, sur le projet, il y avait aussi Gérard Roger, psychologue retraité. Alors Gérard a dit quand même, ça fait un peu, je ne sais plus quoi.
Un bipeux.
Bon, en espérant avoir pas été trop has-been.
Non.
En tout cas, merci pour votre...
Il me semble quand même que quand on est dans l'humain, on n'est pas tellement has-been. Hein. On est humain depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc, dans ces cas-là, tu as fait une profession où, justement...
On est loin d'avoir fait le tour de la question.
Ah, ça.
Loin d'avoir même donné quelques vérités. On n'a pas les vérités, de toute façon. On peut avoir quelques solutions, mais personne n'a de vérité dans ces
cas. J'espérais juste, moi, qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui serait passé par les mains de la PJJ en tant qu'adolescent et qui serait là à 60 ans sans qu'on sache ce qu'il soit devenu et qui puisse effectivement témoigner. On a quand même eu un peu l'ENA tout à l'heure.
Non, mais je me retrouve devant la police une fois parce que je ne courais pas assez vite.
J'y repense là, mais j'y pensais tout à l'heure avec Laurence. Là. Il y a des situations qui m'ont touché. Alors, c'était à Rodez en étant administrateur ad hoc, c'est-à-dire de charger du suivi au moins financier de filles ou de garçons qui ont subi des violences sexuelles. Alors, soit dans le cadre de la famille, soit dans d'autres. Et ce sont des situations qui, pour moi, sont très, 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 très dures. Voilà, j'avoue que. Voilà. Je le voyais parce que, comme je range mes affaires, je voyais Laurent Guédon avec une grande signature dessus. Voilà.
Moi, je voulais lui comme administrateur ad hoc.
Vous me désignez,
j'en
parle, Cathus,
c'est bien.
Ouais.
Eh bien, merci à vous deux.
Merci à vous. Merci à vous. Vous m'avez rajeuni d'au moins 20.